Hey, bonjour tout le monde, bon matin. Dans ce podcast, on parle avec Iyim Jabak. Je définirais Iyim comme étant une femme très différente, unique en son genre, car son parcours de la vie est absolument hors du commun. Elle est née en Arabie Saoudite et à l'âge de 4 ans, elle est venue s'établir au Canada avec sa mère et son frère. En 1999, elle est devenue la première crew au Québec en Muay Thai. Ça veut dire qu'elle est devenue la première enseignante certifiée de Muay Thai au Québec. Elle enseigne aussi le yoga et la méditation depuis 2012. Elle est une éternelle étudiante de la vie et surtout, elle continue sa découverte infinie sur la quête de la vie consciente et de la spiritualité. Pendant le podcast, on parle de son parcours personnel, la provenance de ses valeurs et surtout de ses croyances spirituelles. Comme toujours, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram et YouTube au podcast RJL et tous nos épisodes sont disponibles au rjlp.net/épisode. Peace! Bonjour, bon après-midi, hello. On est. Fallait que je rie, Iyim. On est assis ici avec Riyim. Fait que prononce ton nom pour le monde qui ne savent pas comment le dire, parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul qui va l'avoir détruit.
Ah, alors en arabe, on dit Iyim, mais en français, c'est Iyim. C'est parfait.
Iyim, tout est parfait.
Oui, tout est parfait.
Bon.
Bon après-midi à toi.
Merci. Écoute, c'est dur à battre, il fait beau. Je suis rendu avec deux chiens à cette heure, fait qu'il va y avoir du bruit. J'ai la chance de fumer un cigare, de te regarder, puis de boire du thé en même temps. Fait que ça va, hein? L'idée un petit peu de parler avec Iyim, c'est qu'elle a un background qui est très intéressant, que ce soit son pays d'origine, que ce soit les arts martiaux qu'elle a fait. Puis l'idée un peu, c'est de situer d'après une femme que je considère forte. Une femme acharnée, une femme qui a une tête sur ses épaules, une femme qui vient d'une société qui est extrêmement différente de la nôtre ici.
Bien dit.
Puis un petit peu pour mettre en contexte où l'homme se trouve, comment la perspective d'une femme, l'homme où l'homme se trouve dans la société d'aujourd'hui en Amérique du Nord. Fait que trop souvent, on entend la perspective des hommes, des femmes que je considère des féministes de troisième vague. Puis aujourd'hui, ben, c'est pas à ça qu'on parle du tout. Juste pour que vous le sachiez, là, oui, il y a des rôles de genre, puis vous pouvez tout manger de la merde si vous pensez qu'il y en a pas. OK? Bon.
OK, là.
Ceci dit.
Alors, la table est mise.
Ouais, c'est ça. Ceci dit, j'aimerais ça que tu parles d'où tu viens. Tu me donnes un background, je vais te laisser parler, je vais fumer mon cigare, puis je t'interromps quand ça me tente. That's kind of what I do.
I was going to just say that. That's kind of what you do in your podcast.
Ouais, c'est un peu ce que je fais. Fait que dis-nous, d'où viens-tu? Pourquoi tu penses que ton opinion a de la valeur? C'est ça que j'essaie de framer, dans le fond. Fait que commence par où tu viens, c'était quoi ton parcours, puis à partir de là, j'ai plein de questions à te poser, puis on va voir où ça va aller.
Est-ce qu'il faut que je commence par répondre à la première question ou c'est quoi ma valeur? Deuxième question, je commence par les deux.
Ben moi, je te dirais que pour mettre du contexte, un petit peu de savoir, ouais, commence par le début.
Okay. Tout est parfait. Pour ma part, née en Arabie Saoudite, fin des années 70, donc années 78 pour être précise.
God damn!
I know! Can you imagine? He said god damn because I look like 30.
Non, god damn, qu'elle a l'air de 50. C'est pas ça pour tout que je dis.
Et Arabie Saoudite, Kobar, un père musulman. Dans l'extrémisme, et puis mère saguenéenne de la Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Very
et
nice.
Là, souvent, les gens vont me dire, hey, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se rencontrer? Mon vrai père était en voyage d'affaires à Montréal, et puis ma mère, son amie, dit, écoute, un soir, on va tout super ensemble.
A vendu des bleuets.
A vendu
des bleuets à ton père.
Mon père est en voyage d'affaires, fait années 60, fin 60, au Canada-Montréal. Ils se rencontrent un mois plus tard. avant que tout le tralala des femmes d'Amérique du Nord s'oriente vers suivre leur prince charmant en Arabie Saoudite, dans les pays de tel. Ma mère, elle s'est mariée avec lui là-bas. Et puis, quelques années plus tard, elle a eu moi, mon frère.
Et il est plus jeune, ton frère, oui?
4 ans plus jeune que moi. Ma mère habitait là jusqu'à l'âge de... Non, pendant 9 ans là-bas.
Et 6 mois.
Oui, quand même. Et puis, dans ces années-là, qu'est-ce que j'ai dit au début? Que les femmes occidentales et d'Amérique du Nord ne savaient pas les lois et l'énergie et la culture de ces pays-là. Comment qu'une fois que tu es là, et je vais commencer tout de suite à dire, c'est pas de les rendre sur une valeur incroyable, mais il faut quand même mettre les vraies choses au bon endroit. C'est leur droit. L'homme pour la femme qui reste là-bas, la signature du passeport, les enfants qui quittent le pays.
C'est vrai,
c'est quelque
ça,
chose
hein?
que je veux mettre tout de suite à point, c'est que c'est pas qu'ils veulent mal faire, c'est dans leur culture, c'est dans leur extrémisme, c'est dans leur mentalité depuis beaucoup plus longtemps que nous, on existe au Québec puis au Canada.
Ouais, c'est clair.
Donc, déjà là, c'est pas que j'appuie, mais j'ai un respect parce que c'est dans leurs droits, puis c'est inné en eux depuis tellement longtemps.
Mm-hmm.
Et puis, ma mère est très amoureuse là-bas, elle est restée là-bas, que ce soit d'amour ou de force, d'après les lois d'Arabie Saoudite et d'un homme arabe jusqu'à fin 82. Et quand mon frère est né, on s'est sauvé de l'Arabie Saoudite.
Fait que ta mère, elle a décidé de partir.
Ouais, ma mère a décidé de partir. En fait, c'était un super bel addon. C'est qu'à chaque année, il y a des grandes périodes de pluie en Arabie. Et mon père, ingénieur pour le roi directement là-bas, on allait passer plusieurs mois voir le frère de mon père en Toscane. Fait que c'était ce temps-là de l'année. Fait que la signature de quitter le pays était faite. On quittait pour
ouais,
lire
vous étiez
passé
déjà, vous étiez déjà sorti de l'Arabie.
Et puis, de fil en aiguille, mon oncle arrive 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures en retard. J'oublierai jamais ce moment-là. J'étais quand même assez âgée à 4 ans pour me souvenir de cet instant-là. Et ma mère, elle était à l'extérieur du pays. Même si c'était en Europe, elle était à l'extérieur du pays. Fait qu'elle avait tous ses droits pour reprendre un billet d'avion et quitter vers le Canada.
Ouais, elle avait plus besoin d'avoir d'approbation de ton
aucunement.
Père.
Fait que make
faut
very
faire
long.
Attention de faire attention de pas taper sur la table. Ah. Parce que ça fait plein de...
Aucun problème. Donc, de fil en aiguille, on s'est ramassé de retour au Canada dans les années 82.
Fait que c'était planifié quand ta mère était en Toscane, c'était planifié qu'elle partait, là.
Bien, c'était planifié. Je pense que depuis plusieurs années, elle rêvait de quitter l'Arabie.
Ouais.
Je pense que c'est pas facile. Et à un moment donné, dans les rêves ou la quête d'une mère ou d'une femme ou même plus simplement que ça, un être humain, t'as des moments où tu abandonnes l'idée, t'as des moments où tu restes un petit peu plus calme dans l'idée. Et là, c'était un parfait timing pour elle. Donc, je me souviens, elle m'a regardé, elle dit « OK, it's time, we're out, we're doing it », puis on quitte le pays. Donc, ça s'est fait vraiment comme un parfait momentum.
Est-ce qu'elle t'a déjà parlé de comment c'était d'habiter là-bas ou c'est quelque chose qu'elle parle pas?
Non, elle m'a toujours parlé de comment c'était d'habiter là-bas. Mais le plus grand de tout, c'est que moi, je me souviens quand même très, très jeune. C'est les mémoires que j'avais peut-être 3-4 ans, puis je me souviens très, très, très clairement des années là-bas. Donc, mais oui, elle m'en a parlé, mais toujours avec un respect de la culture là-bas. C'est que c'était vraiment beau d'elle.
Ah ouais?
Toujours.
Ça fait
qu'elle jamais bâcher mon père, jamais dire « Ah, oh, ton père nous a empêchés ». Toujours avec un respect de son côté, mais aussi être dans l'humilité de ce qu'elle a vécu. Comme une femme d'Amérique du Nord, comment elle s'est sentie.
Parce que c'est un choix qu'elle avait pris d'aller là-bas.
Absolument.
Quand même. Puis elle assume son choix.
Elle assume son choix, même aujourd'hui.
Good for her.
Ouais, and we're very close, very best friends.
Est-ce que... Fait que non seulement elle est revenue ici, toi, tu ne revois pas ton père depuis ce temps-là?
Non, je n'ai jamais revu mon père. On a essayé à quelques fois à travers les années de se revoir à travers la cour ou...
Au travers de la cour, qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, il est revenu au Canada dans les années 84, puis on a voulu aller en cours pour essayer de régler les choses, mettre les points sur les i. Ma mère avait des questions qu'elle n'avait jamais vraiment eues pour plein de choses qu'on vit à travers les divorces, que ce soit l'allocation familiale ou ce qui s'est passé en Arabie. Et ben, c'est très difficile d'amener des gens en cours.
Quand ils ne veulent pas être là, surtout.
Ils ne veulent pas être là, en Arabie Saoudite, les grandes familles riches, là, les comptes de banque, tout est en Suisse, tout est caché, tout est parfait. Fait que c'était vraiment une bataille qui était impossible à avoir. Parce que les quelques fois, j'ai croisé mon père, mais sinon...
OK, tu l'as rencontré, tu l'as vu?
On s'est vu, oui, absolument.
Puis la relation, elle est inexistante, j'ai l'impression.
Inexistante.
Il s'en fout un peu, quoi.
Ben, qu'il s'en fout ou pas, il y a comme eu juste une relation impossible qui s'est créée avec les années.
Ouais.
Tu peux pas retourner dans des mentalités aussi profondes, et pour l'enfant, et pour le parent qui s'est essayé. Je pense que c'était impossible pour lui, une fois qu'on était au Canada, de venir près de nous pour nous reprendre. Exemple.
Ça, tu penses que c'est quelque chose qu'il aurait aimé, ça?
Exact. Oh, absolument. Absolument. Absolument.
C'est... Ça commence une vie d'une drôle de façon. Hein?
Ben, il y a eu des moments dans ma trentaine où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit dû à ma formation professorale de yoga. Dès très jeune, je me suis toujours vue comme un peu giftée d'avoir vécu ce que j'ai vécu quand je suis revenue ici.
C'est hors de l'ordinaire, dans le fond.
Oui, vraiment. Je trouvais ça. Puis après ça, plus tard, on m'a dit « Oh, faut que tu vives ta tristesse, ton deuil. » Moi, j'étais comme « Ben, je remercie la vie d'être ici, d'être au Canada, puis de vivre ma vie comme humblement avec une mère qui a l'air bien. » Puis non, je me souviens vraiment qu'à 8-9 ans, j'avais une gratitude infinie d'être de retour au Canada, d'avoir une chance d'être ici.
Ta mère, elle sonne comme, je n'ai jamais rencontré ta mère, mais ta mère, elle sonne comme une femme très forte. Parce que pour être capable de beaucoup de monde, j'ai l'impression aujourd'hui, blâmerait l'homme pour les avoir apportés, pour les avoir amenés là-bas, d'avoir été obligé de s'enfuir, mais elle a de l'air, de la façon que tu en parles, elle a accepté que c'était ça quand même, c'était sa décision de partir du Canada éventuellement.
Absolument.
Là.
Puis jusqu'à aujourd'hui, elle l'explique comme ça, elle l'élabore comme ça, elle a une sagesse de désigner ce qui lui a appartenu, ce qui lui appartient toujours.
Ouais.
Elle est capable de dire que c'était l'amour de sa vie. Elle est capable de dire c'est quoi la vraie réalité là-bas, des choses que si on regarderait les documentaires sur Netflix, on n'en croirait pas nos yeux, on n'a jamais réussi à mettre les yeux dans un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est pas comme autres pays musulmans comme le Maroc ou
l'Arabie. Ouais, ça c'est le Mecca en plus, hein. C'est où c'est le
centre,
plus
là,
mais c'est vraiment où c'est le plus extrême dans leur croyance.
Absolument.
C'est où la religion puis la politique n'a aucune différence. C'est vraiment la religion et la politique.
Ouais, et je pense que c'est pour ça qu'est née ce qu'on appelle aujourd'hui la police islamique en Arabie Saoudite.
Ah, 100%.
Tu comprends? Donc, oh, yeah. Yeah, it's very powerful. C'est très puissant.
Fait qu'on skip une couple d'années. Je voulais prendre un 10 minutes, mettons, pour passer au travers de ça, parce que je trouve ça quand même très intéressant comme parcours. C'est pas... C'est pas quelque chose que tu entends tous les jours, on va s'entendre. Une chose que ça vaut la peine d'expliquer aussi, c'est ton parcours au travers des arts martiaux, qui est un peu comment nous on s'est rencontrés au travers des années, malgré qu'on s'est parlé à quelques reprises pendant des années sans se rencontrer, puis c'est juste dans le dernier mois, peut-être, mois et demi qu'on s'est rencontrés après des années. Là.
Ouais.
On connaît pas mal tout le même monde au travers des arts martiaux, au travers du Muay Thai.
Ouais.
J'aimerais ça que tu me parles de comment t'as trouvé le Muay Thai, pourquoi que tu t'es battu, puis qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté? Parce que je vais dire que ça, on se l'est dit déjà, puis je l'ai dit un million de fois sur des autres podcasts, pour moi, les arts martiaux m'ont donné, ont construit la structure de mon être, si je peux être comme ça.
Mm-hmm.
Mon ossature vient, mon ossature puis ma moralité, ma morale vient des arts martiaux.
Ouais.
Puis en ayant cette structure-là, je peux rajouter du muscle par-dessus, puis ça, c'est mes croyances. Puis ça, c'est mon éducation, que ça soit au travers de la vie ou que ça soit au travers de la lecture, ou que ça soit au travers d'une école. Mais les arts martiaux m'ont tout le temps donné la structure, puis la compréhension, la moralité, le savoir-faire. Ça, je pourrais lister un million d'affaires que ça m'a donné, puis tout le monde à qui je parle me disent la même chose. Pas du monde qui ont fait du karaté pendant un an, là. Je parle du monde qui ont plus qu'une décennie dans les arts martiaux.
Ouais. Tu vois, tu viens de répondre un peu, on vient d'échanger un peu ce que j'allais continuer à dire, c'est que, un peu comme moi, je crois que quand ça fait plus de 20 ans ou quand tu peux dire que tu as passé plus de la moitié de ta vie à être dans la discipline de l'art du mouvement et de l'art martial, que tu as été multidisciplinaire ou pas, c'est quand même quelque chose. Ça fait partie, comme tu dis, de ton ossature.
Quand ça fait plus longtemps que tu le fais, tu regardes ta vie et ça fait plus longtemps que tu fais quelque chose que tu le fais pas.
Oui, exactement. Avant de répondre à cette question-là, tout à l'heure, tu as dit, parle ton parcours et dis pourquoi ton opinion compte. Et on parlait de ça ce matin, un petit peu avant le podcast. Je pense que tout humain, son opinion compte. Et tu me donnes une plateforme aujourd'hui pour partager et comme tu m'as un peu introduit. Et je me permets de dire qu'avec ma vie, mon expérience, mon cheminement, je pense que je suis une femme qui est faite forte avec des belles valeurs profondes, humaines, plein d'amour. Et d'où là vient un peu aussi où est-ce que mon opinion, je pense, et je suis très concrète dans ce que je dis, compte. Ma découverte d'arts martiaux, je vais continuer le fil de ma mère. ses valeurs et comment qu'elle a toujours parlé de notre vie et de nos valeurs humaines et de notre enfance. Je pense que le moment que j'ai rentré dans une école d'arts martiaux et que j'ai regardé l'énergie qu'elle dégageait, ça coïncidait parfaitement avec les valeurs qu'on m'avait amenées, que ce soit énergétiquement consciente, pas consciente. Donc, les arts martiaux ont été une découverte à travers une peine d'amour.
Ah ouais?
J'ai lu
c'est un hostie gars qui t'a fait découvrir.
C'est un hostie gars! Mais j'adore! Encore une fois, gros cadeau de vie. Ça faisait un mois que je pleurnichais, toi, regardons ça. Puis une amie qui faisait beaucoup de jiu-jitsu et beaucoup de Muay Thai à Montréal, à Gama, elle me dit, t'sais-tu quoi? Sors à soir. Viens, mets les gants. Là, pathetic. Prends les gants.
Stop being a bitch. Arrête d'être une bitch, puis let's go.
And I love that. Et ça, c'est aussi chez les amitiés, c'était des valeurs, j'aime ça. T'as pas à me dire, pauvre toi, c'est wake up, viens-t'en.
Ferme-toi, arrête de chialer, il est temps que ça passe. Ça fait un mois, fuck off, let's go.
Ça fait un mois que je brinque, puis j'écoute, je sais pas combien de films d'amour, puis que je mange des Haagen-Dazs. Fait genre, que
dans ce temps-là, Roy Dupuis, il était quelque chose au Québec, là.
Ouais, genre.
Ça fait un petit bout de temps.
J'adore. Oui, exactement. Fait je pense que l'an, c'est con du mot encore. Là. C'est une joke.
Ouais, puis c'était pas considéré un classique encore. C'était, il y avait des nouveautés. Ouais. Ça, pour nos amis français, là, pour vous mettre en perspective, là, c'est Rock Voisine. Je sais pas si c'est rendu en France, mais c'est notre chanteur Kéten du Québec. Là.
Ouais.
Il chante ses petites balades d'amour avec Hélène. Là.
Ouais, sur la plage et puis dans l'eau.
T'sais. Exact. Puis là, c'est compte, je sais pas à quoi je le comparerais, là, mais c'est si vous avez entendu parler des Boys, là, c'était dans le style des Boys, mais avant les Boys, puis c'était une série à TV, mais c'était plus sérieux.
Comme un soap opera sérieux de gars d'hockey.
Ouais, c'est ça, parce que je sais pas si vous le savez en France, mais au Québec, c'est-tu qu'on aime ça le hockey? Hostie qu'on aime ça le hockey. Ben dans le fond, j'ai tout le temps comparé le hockey est au Québec ce que le Muay Thai est à la Thaïlande.
Ouais, mais c'est le sport national, quoi.
T'sais. Mais c'est dans le sang. Ah ouais, comme ici, le nombre de personnes qui me demandent de hockey, puis je suis comme, m'en calisse, le hockey, je considère pas ça un sport qui est extrême.
Ouais.
Moi, du monde qui se tape sa gueule, ça, j'aime ça. Tu regardes du rugby, ça, c'est un sport ça, d'homme. Tu sais, tu me dis, t'aimes-tu le football? Je respecte le football parce que faut que tu sois bon pour le faire.
Ouais.
Mais tes pads au complet, les linebackers sont gras que le Christ, tes gars de défense sont... Regarde du rugby.
Oh my God.
T'as un animal de 6 pieds 2, 220 livres de muscle, puis qui est capable de courir le court. Il arrête pas, il y a pas de pause. Les gars, là, dans des scrums, ils ont des cuisses que les chevaux les regardent comme... Damn!
Oh, en parlant de cuisses. Premier cours de Muay Thai, je rentre dans l'école, toi, après avoir broyé pendant un mois, puis là, on me regarde de haut en bas. Je me souviens, Georges Saint-Pierre s'entraînait du côté de Jiu-Jitsu.
Ouais.
Puis on était comme vraiment une petite gang en Muay Thai, puis en Jiu-Jitsu, puis tous ces sports-là, ces arts martiaux-là. Puis on me regarde la tête aux pieds, toi, puis on me dit, va-t'en sur le punching bag. Fait que j'ai fait mon heure et demie sur le punching bag. Et on dirait que cette énergie-là m'a comme cassé en deux. Tu sais qu'est-ce que je veux dire par casser en deux dans les taïkans, dans les arts martiaux, dans les... C'est vraiment beau ce terme-là. Puis souvent, j'ai dit ça dans le monde du yoga, puis ils sont comme genre, oh my God, ben oui, quand tu médites, puis à un moment donné, ton dos, puis t'es raqué, ou que
Non, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, mais
puis
comme...
Puis on parle pas nécessairement physiquement, on parle mentalement. Ça t'expose.
It breaks you.
Ben, j'ai tout le temps trouvé que ça t'expose. Ça expose exactement ce que t'es. Il y a pas de... Une affaire que je trouve absolument extraordinaire des arts martiaux, c'est littéralement quand tu fais un combat, there's no quitting, y a pas, tu peux t'en sortir, tu peux taper out si tu veux, tu peux arrêter de te battre, mais peu importe qu'est-ce qui est l'effet ou le résultat, ça va t'avoir exposé. Ça paraîtra peut-être pas, mais mentalement, tu vas le savoir. Ouais. Tu vas savoir de quoi t'es fait.
Ouais.
T'es peut-être fait de quoi? De quelque chose d'extraordinaire, comme t'es vraiment, vraiment mou.
Ouais.
Mentalement, mais il n'y a pas de mensonge.
Non, ça c'est
pas à toi-même en tout cas.
Pas à toi-même. Puis c'est ça que j'ai aimé pendant cette heure et demie-là, c'est que à travers déjà ce que je pensais qui était une vulnérabilité puis une peine d'amour, là on me mettait dans vraiment une place très vulnérable. Dans le temps, il y a 22 ans, il n'y avait pas vraiment grand-fille. Toutes les Ronda Rousey, puis toutes les
Yoko Bliss. Ouais, ça n'existait pas.
Tu sais,
hein, là, 22 ans, ça veut dire début 2000. Ouais, il n'y avait pas grand-chose.
1998, genre.
Ouais, ça, tu veux dire, c'est genre 7 ans. C'est même pas, c'est 5 ans, 6 ans après le premier UFC.
Parce que je suis devenue prof de Muay Thai en 2000, puis ça faisait une couple d'années que j'en faisais déjà du Muay Thai.
Fait que tu te dis que c'est 93, le premier UFC. Juste pour te le mettre en perspective.
93, premier UFC, mais il n'y a pas de femmes à ce
moment-là. Non, c'est toutes des dudes de différentes disciplines. Ouais. Il n'y a même pas le sport qui est là aujourd'hui. Est loin.
Et
il est
loin.
Même, il est 10 ans avant d'être même considéré. Là.
Je pense que d'après les profs d'arts martiaux de chaque école dans ce temps-là aussi, quand on regardait des trucs à la télévision, mon prof, c'était les K-1, c'était tout ce qui était
Sakuraba. C'était du kickboxing, Sakuraba. Fait que tu parles de Pride.
Oui, je parle de Pride.
Pride FC,
donc,
ça c'était...
Pride.
Ah, mais ça, il y a tellement de respect. J'adorais Pride.
Ouais,
adorais Pride.
Parce que c'était, contrairement au UFC, all the respect, depuis j'avais vu Bruce Lee, dans l'art complet de honorer les multidisciplinaires, ça, Pride, c'était des vrais multidisciplinaires. Ils maîtrisaient quelque chose. Les combats pouvaient durer jusqu'à 2-3 heures. Et c'était... Il y avait une spiritualité qu'on ressentait parce que c'était fait en Asie aussi. C'était incroyable comme expérience pour quelqu'un en arts martiaux de regarder ces combats-là, je trouve, dans ce temps-là.
Je trouve ce qui était le plus exceptionnel de Pride, c'est pas nécessairement les combattants, mais surtout l'audience.
Ouais.
Tu pouvais avoir un 20, 30, 40 000 personnes en audience. Les Japonais sont assis là, bien droits, disent pas un mot. Les gars se battent, t'entends les cornermen parler à leur fighter.
Absolument.
Pas parce qu'il y a des micros, c'est le ring, parce que ça passe au travers du micro du commentateur qui est assis 10 pieds plus loin.
Ouais.
Mais il y a tellement pas de bruit.
Absolument.
Puis le respect, une chose que j'adorais, puis une chose qui me... C'est une des raisons pourquoi, je vais vous avouer, l'UFC, j'écoute quasiment plus ça, parce que j'ai beaucoup de misère avec les crowds, j'ai beaucoup de misère avec le monde. C'est tellement rendu populaire.
C'est tellement contradictoire quand tu y penses de la vraie essence d'arts martiaux.
Mais c'est le manque de respect, je trouve, que les individus qui se sont jamais battus, qui... Moi, je vais te dire, franchement, là, tu regardais du Pride, tu peux avoir un gars qui avait 10 combats, qui était 5 victoires, 5 défaites, que dans UFC, ça serait fait couper, ça fait 6 combats. Mais dans Pride, parce qu'à chaque fois qu'il s'est présenté, il a tout mis sa ligne. Il a essayé de gagner. Il n'a pas essayé de gagner pour des points comme que ce que tu vois beaucoup aujourd'hui.
Mm.
Parce que les combats, ils n'arrêtent pas.
Mm.
Il faut que tu te battes. Parce qu'au début, il y avait des rounds de 5 ou 10 minutes. C'est tata, là.
Tu pouvais te rebattre dans la même journée.
Ouais, comme des tournois de K1 aussi. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que les Japonais, à cause de la culture un petit peu samouraï, ont beaucoup de respect pour les combattants.
Ouais.
Ils réalisent que ce n'est pas une job qui est facile. Puis ça, on a déjà parlé, puis j'en ai parlé avec beaucoup, beaucoup de fighters. Se battre ne paye pas.
Non.
À moins que tu es genre top 5 au monde dans ta catégorie, tu ne feras pas ben d'argent.
Ouais.
Mais les Japonais ont toujours compris, ont toujours eu le respect envers les fighters. Je vais te dire, une des choses qui me frustre le plus, c'est d'entendre du monde qui sont gros, out of shape, qui ont jamais mangé un coup de poing d'en face, se retourner puis bouer un fighter.
Mm.
Ouh, t'es qui, toi? Viens mettre les gants, puis je challenge n'importe qui sur le podcast en ce moment. Si t'es ce genre de personne-là, ça va me faire plaisir d'aller dans un ring avec toi, pour on va mettre une paire de gants, voir comment est-ce que ça se sent.
C'est bien dit, je trouve, ce que tu dis, puis je l'ai souvent pensé, ça aussi. C'est particulier de oser. C'est comme si c'était une mode qui a été... À un moment donné, l'UFC, c'est comme si c'était une convergence entre le WWF.
Ouais,
puis
ouais,
là, comme
ouais.
Les deux, on sont devenus comme un show entertainer de...
Ben, quand Lesnar, quand tu regardes littéralement quand Lesnar partit de la WWF, puis on va s'entendre que Brock Lesnar, c'est un NCAA 3 fois ou 4 fois champion. Ça veut dire que c'était le meilleur heavyweight en wrestling aux États-Unis. Puis les États-Unis sont reconnus pour leur wrestling.
Ouais.
Fait que le gars, il est legit.
Ouais.
Mais c'est qu'il a modifié. Il a le respect qui m'a été enseigné au travers des arts martiaux qui est complètement perdu.
Mm.
Tu sais, la boxe, regarde la boxe. Autant que j'adore voir des gars se battre. Moi, tu pourras avoir 2 bums qui se battent dans un allée entre 2 containers, puis je vais m'asseoir là, puis je vais les regarder se battre. J'adore les combats.
Ouais.
Mais maudit qu'on manque de respect.
Ouais.
En boxe, c'est atroce comment ce qu'ils s'insultent. Puis là, tu vois ça dans UFC aussi.
Ouais. C'est quelque chose qui a été perdu quand les arts martiaux, quand sont arrivés d'Asie aux États-Unis, il y a eu une première vague. Toutes les Chuck Norris, tous les Danny DeSanto sont arrivés, 3, Danny DeSanto, avec Bruce Lee puis Adjarn. Ils sont arrivés, ils étaient tripeux, ils avaient le goût d'amener quelque chose de différent parce que j'ai quand même étudié beaucoup de mes professeurs, tu sais, je veux dire, là d'où vient justement de ce que je voulais dire. Moi, quand j'ai commencé en Muay Thai, c'était pas de me battre au début qui était important. Je pense que le côté qu'on mettait sur les punching bags, puis « OK, t'es fille, vas-y là », ben moi, je me suis comme plus documentée puis amenée une façon autodidacte de m'apprendre historiquement l'art martial chinois, japonais, les samouraïs, ça m'intéressait beaucoup. Donc, je te dirais que c'est une combinaison des deux qui a fait que c'est devenu vraiment ma discipline de vie à 18 ans. Les arts martiaux, là, je n'étais pas capable de manquer un cours de Muay Thai à tous les jours. C'est devenu un bijou dans ma vie. À chaque jour, je peux pas dire comment que j'ai... Et ça reste encore, je pourrais dire, l'amour de ma vie, la découverte des arts martiaux dans ma vie.
Une question pour toi, je vais divaguer un peu. Là.
Ah, go for it, on est là pour ça.
Mais je te demandais pas permission. Je voulais juste t'avertir que ça s'en venait. C'est tout ce que je faisais.
Ah, j'adore.
C'est mon podcast, Calis.
Oui, crew.
OK, crew. T'es-tu considéré crew? T'es crew?
Plus que crew.
Ouais, t'es considéré à jaune?
Ben, si j'applique pour ça avec ma branche, oui, puis je serais la première adjointe femme, mais c'est kung crew. C'est à plus de 16 ans d'enseignement. Ouais. C'est très politique aussi, les arts martiaux, vous le savez. Et là, je pense,
if you don't file
the right papers, if you're not with like Thai Boxing Association, if you don't follow through, then at one point, ben c'est ça, c'est ce follow-up-là, je serais pareil comme beaucoup de mes professeurs qui sont rendus adjoints.
Ouais. Fait que juste pour le mettre en contexte, pour ceux qui connaissent peut-être pas ce que ça veut dire, crew veut simplement dire professeur en thaïlandais. Ça n'a aucun rapport avec le Muay Thai. Un enseignant à l'université va être appelé un crew, c'est juste enseignant.
Ouais.
En Muay Thai, on a des crew yai qui sont des enseignants d'enseignants. Fait que ça serait quelqu'un que... Normalement, c'est du monde qui ont des écoles, puis ils ont plusieurs crews qui se rapportent à eux, fait qu'ils ont une lineage. Puis après ça, t'as un jaune. C'est comme ça que je le prononce, mais je le vois souvent écrit avec un R à place d'avec un H, fait que j'ai jamais vraiment regardé c'était quoi l'essence. Ben, c'est ça, c'est une traduction.
C'est comme genre le Arn, R, c'est juste pour représenter l'accent pour faire Ajan.
OK, fait que c'est ça, mais c'est Ajan. OK. Puis... Ajarn ou Ajan est l'équivalent d'un master. Fait que dans le fond, c'est littéralement un Ajan. Je pense qu'il y en a deux vrais au Canada. Il y en a peut-être trois.
Ouais.
Il y en a plusieurs qui s'appellent des Ajan. Puis ils sont pas des Ajan. Normalement, il y a pas beaucoup d'Ajan qui sont pas taille.
Ouais.
Il n'y en a pas gros.
Ouais.
Puis, tu sais, on considère que le Muay Thai au Canada a été amené par vraiment deux personnes. Burt Clerk, puis. Suchard.
Yeah.
Fait que t'as Ajan Burkler, t'as Ajan Suchard, puis les deux se connaissent très bien.
Ouais.
Puis les deux viennent de Thaïlande, puis ils ont apporté ça ici, indépendamment dans le coin de Toronto.
Ouais.
C'est assez extraordinaire d'être capable de regarder le lineage, d'être capable de regarder ta ligne. Moi, je suis en dessous d'Ajan Suchard. Je regarde Crew Jeff d'Ottawa qui est en dessous d'Ajan Burkler.
Yeah. Moi, c'est Adjourn Chai, puis Daniel Santo à Los Angeles.
Ouais, mais ça, c'est américain. C'est ce que j'allais dire. Ouais.
Mais moi, à cause, c'est spécial, hein, parce que on en parle vite, je sais que c'est ton podcast, mais Québec, Ontario, c'est tellement intéressant parce qu'on dirait qu'on n'osait jamais aller à Toronto pour être certifié. Puis on se ramassait, I know, it's right beside. Puis là, à cause de la lineage de Ottawa avec Bob Carver, qui était l'élève direct de Adjourn Chai, il s'est avéré que toute cette nouvelle. En fait, c'était Adjourn Chai, crew Bob Carver puis Philippe Gélina, puis là, nous qui ont été certifiés avec Norman Grimard de Scarmax, que genre, si vous ne connaissez pas, genre pour moi, c'est un homme puis un martial artist incroyable. Pour moi, c'était ça, mais Québec, c'était pas vers Toronto qu'on allait, c'était vraiment particulier, on allait vers la lineage de Los Angeles. Même du Jiu-Jitsu.
Mais c'est correct.
Avec les Gracie, tu sais, ça a été ça pour moi, mon bagage.
It is what it is.
Oh, it is what it is. It's beautiful, actually. C'est important qu'on ait été chercher des notions chez les différents grands maîtres dans cet art-là.
Puis Ajahn Chai, c'est pas lui qui roulait les TBAs?
Ouais.
Ouais, ben c'est ça. Puis j'ai une photo en haut, j'ai gagné, j'ai été champion là-bas.
J'ai reconnu le logo, parce que ça, quand j'ai vu ça en haut, c'était much respect, parce que c'est quand même l'emblème du roi de Thaïlande, puis il n'y a pas eu beaucoup de gens comme Ajahn, pareil, hein, tu le sais.
Mais il est mort, hein? Il est mort ou il était très malade, hein?
Le roi?
Non, Chai. Ajahn Chai, il est encore en vie?
Oui, il est encore en vie, mais il est très malade.
Ouais, c'est ça, il va pas bien, hein? Ouais. Parce que c'est ça que je voyais, parce qu'encore là, je connais tellement de monde au travers des TBAs.
Ouais.
les TBAs, pour vous donner une idée, c'est le plus gros tournoi nord-américain, je dirais, amateur.
Ouais.
Hey, dans le temps qu'on allait là, là t'avais ouais. des un millier de fighters.
Ouais.
T'avais comme 1000 fighters ouais. sur 4 jours ouais. dans tous différents poids, toutes différentes
disciplines. Parce que, ouais.
Hey, mais ça c'était cool ça. Ouais. Honnêtement, là, j'étais allé en 2014, qui est mon dernier combat. Là.
Ouais.
Ouf, hey, c'était cool de se battre en avant de Ajin Chai. J'ai une photo avec lui, il est pas grand. C'est un vrai type.
Ils sont tous comme ça, tu sais.
Il est tout petit.
Même Danilo Santo, ouais. tu sais, quand tu les vois, sont mini, mais ils contiennent beaucoup. Ils ont été là au bon endroit, au bon moment, je pense, pour nous.
Ouais, non, ben, c'est extraordinaire que tout vienne de trois lignes.
C'est
que
fou.
Ça soit nord-américain, ça vient de tout, peu, tout chercher de trois personnes qui ont amené ça ici. Puis il y en a une de ces personnes-là, Ajin Burkler, qui est même pas ici.
Uh-uh.
Il est toujours en Thaïlande. C'est un gars que j'ai extrêmement beaucoup de respect pour. Qui est littéralement, pour ceux qui le connaissent pas, là, Ajin Burkler est probablement un. Il est considéré top 10 des meilleurs fighters de Golden Age. C'est quelque chose de ridicule comme 150 combats, il y a 10 défaites, puis ces 10 défaites, il les a défendues. Il s'est repris contre tous. Fait que techniquement, il y a tout le monde qui l'a battu, il les a battus. Puis ça, c'est impossible.
Ouais.
Tu regardes les tailles, ils vont avoir 300 combats, ouais. ils vont avoir 175, 200 victoires.
300 combats, c'est tellement vrai.
Mais ils vont avoir un split de 200 victoires, 100 défaites, puis tu te bats deux fois par mois. Tu te bats sur 20 ans quand tu commences à 12 ans,
ouais.
10 ans, t'es démoli par le temps que t'es 35, puis eux autres n'ont pas le choix, c'est ce qu'ils font pour manger.
Ouais.
Mais je trouve ça extraordinaire d'avoir un gars comme Burkler qui vient ici, qui a un des plus beaux styles comme Peekaboo, là.
Ouais.
Il est là puis il est pas là, il boxait écœurement puis c'est slip.
Ouais.
Hey, c'est slip, c'est trip, la façon qu'il balaye tout le temps les jambes avant, le gars, il est extraordinaire.
Ouais. C'est le bagage de quelqu'un qui a quand même eu des disciplines puis de l'entraînement en Thaïlande, parce que ça frôle. Des fois, le Muay Boran puis le Khabib Kobang, c'est comme si c'est... Moi, je l'ai vécu, là, habiter en Thaïlande un an et demi, puis à faire des arts martiaux de toute cette ligne-là, t'amène à comprendre un mouvement du Muay Thai dans la progression historique qui est... On en a parlé encore du flow du mouvement. Là.
Ouais,
probablement ça qu'on voit beaucoup chez lui. Hein.
Ben, sa clinch est juste tata. Ça c'est
juste inimaginable.
Mais tu l'as rencontré, Burkler?
I only heard about. J'ai jamais rencontré perso, mais je veux dire, c'est comme si.
Okay.
J'ai jamais eu la chance de le rencontrer.
Parce que Burkler est quand même, vu que c'est ça qui est un peu bizarre, puis ça, faudrait que je m'assoie avec Crew Jeff pour qu'on comprenne ça un moment donné, parce que techniquement, mon lineage est au travers de Crew Jeff, qui est au travers de Crew Chris Q, puis d'Ajin Burkler, mais je suis certifié en dessous d'Ajin Suchard. Mais ce que j'allais dire, puis ce qui est absolument extraordinaire, c'était, je pense, voilà, 2 ans, quelque chose comme 1 an et demi, Burkler donnait des séminaires en Amérique du Nord, puis il était rendu à Ottawa avec Crew Jeff, fait que je suis allé faire un séminaire là-bas. Fait que j'ai conduit de Montréal, je suis allé à Ottawa, je suis allé m'entraîner avec lui. Puis ça l'a donné qu'un petit peu plus longtemps, un petit peu après ça, peut-être une semaine après, il se ramassait à Montréal pour aller à Crulio.
Ouais.
Pendant que c'était quoi? C'était quoi le nom de son gym? Damn!
Dosawan,
downtown, ben dans le plateau. Là. Ouais,
ben genre, c'est Dominique,
Ouais.
C'est Dominique et Montréal.
Ouais, exact. Puis... tu connais, voyons, c'est quoi son nom? Robert Thomas?
Non.
Robert Thomas est un gars qui a commencé à se battre à 16 ans. La première fois que je l'ai rencontré, il mesurait 5 pieds 6. Il devait peser à peu près 140 livres. Il avait déjà 50 combats, puis il se battait contre des hommes. C'est un gars qui vient de chez Crew Chris Q.
Okay.
Puis c'est un très grand ami de Crew Jeff, mais il est plus jeune que toute la gang.
Okay.
Il a arrêté de se battre pour une raison ou pour une autre, parce que je pense que ça paye pas, mais il était classé numéro 5 à 185 livres dans K1.
Hey,
il avait 24 ans.
24
le gars, il est retraité, il a 26 ans.
Ouais.
Mais je l'ai revu à TBAs. Fait que mon premier combat dans un Smokers que j'ai fait à Owama, à Ottawa, sur Carling, lui, il était dans la foule. Puis, tu sais, je le regarde, j'ai comme, who the fuck is this? C'est qui ce gars-là? Puis ils sont comme, ah, ce gars-là, il a 16 ans, mais il a comme 50 combats. Il est dans K1 en ce moment, puis il a comme 110 combats, il a 24 ans.
C'est complètement fou.
Mais ce que je voulais dire, je l'ai vu à 5 pieds 6, 130, 140 livres. Je l'ai revu à TBAs, il était rendu adulte. Il est 6 pieds 2, pèse 220 livres off-saison, puis un six-pack. Puis il se bat à 185 livres. J'ai une photo à côté de lui, je suis juste à peu près 2 pouces de plus petit que lui, parce que je dis 6-2, il est plus comme 6-4. Puis je pesais 165 livres. Je suis tout déshydraté, je viens de faire mon weigh-in, je suis quasiment courbé par en dedans. Puis lui, il est comme 220 livres. Yeah. Ah, j'ai de l'air malade. Mais ce que j'allais dire, c'est que je les connais, je connais tout ce monde-là super bien. Fait que Crew Jeff m'a demandé, il dit faut qu'Ajane aille à Montréal. Fait que ça tente tout de t'en arranger. Juste faire sûr que tout est correct, amène-les manger. Puis quand ils sont descendus, j'étais allé faire le séminaire avec Crew Leo. Puis sacrement de tabarnak. Il arrêtait pas de m'utiliser pour ses exemples. Puis le fait qu'Ajane est 5 pieds 4. Puis moi, je suis 6 pieds 1, puis je pèse 200 livres. Lui, il en paye. Bon, il est assez pesant. Mettons qu'il est pas en fight. Oh, il est plus en shape, là. Mais ses sweeps, il me sweepait, là. J'étais parallèle au sol, 4 pieds dans les airs.
Ah, c'est clair.
Puis il trouvait, « Hey, coucou, viens, come. » Puis il fait juste sweeper, puis je le sais, puis je suis comme, « Oh, tabarnak, encore? »
Moi, je pense encore, comme, « Oh, wow, every time when I see stuff like that, it's so impressive. »
Mais ce que je trouvais cool, puis c'est ça que mon hostie d'histoire qui finit pas, je vais la finir, là. J'avais un gars, un de mes fighters, battait ce soir-là. Fait que j'ai fait exprès, j'étais allé voir Ajane, puis je suis comme, hey, Ajane, wanna see fights? Puis il dit, quel Thaïlandais qui veut pas voir des fights? C'est la dernière journée, il s'en allait après. Fait que je l'ai amené dans une affaire d'MMA.
Ouais.
J'avais un gars qui faisait du K1, il est 6 pieds 7, 185 livres. 6 pieds 7, 185 livres. J'ai demandé à John, à 5 pieds 4, de faire le blessing avec le Moncle, puis attacher ses pratchats avant le combat. Je l'ai sur vidéo à John, puis j'ai expliqué à mon fighter, j'ai dit, dude, ça là, c'est un honneur d'avoir.
C'est précieux, là.
Puis je demande à John, puis j'en parle, puis ça me met les yeux pleins d'eau, puis je regarde à John, puis il est comme, non, Crew, your fighter. Tu sais, c'est ton fighter à toi, c'est à toi de faire ça. Je suis comme, hey, fuck off, là.
Ouais.
T'es comme...
Ouais.
Tout le monde ici savent t'es qui.
Ouais.
Fait que j'ai une vidéo de lui à 5 pieds 4 qui blesse un gars de 6 pieds 7 puis le gars de 6 pieds 7 qui est quasiment à genoux pour faire mettre le manco sur sa terre. Mais ça, pour moi, c'est perfect lineage.
Yeah.
T'avais Ajane Burkclerk.
Ouais.
T'avais un des disciples de Crew Jeff puis Crew Chris Q Robert Thomas qui conduisait Ajane. T'avais moi, puis t'avais un de mes fighters. Fait que ça, pour moi, les arts martiaux, c'est là.
C'est ça. Tu viens de le dire. Absolument. C'est ça. C'est précieux.
Pourquoi? Puis c'est ça, avant que je parte sur une tangente de 15 minutes. ce que j'allais te demander, c'est pourquoi tu penses que ça manque aujourd'hui? Parce que je sais que il y a une structure qui manque, je trouve, les hommes en général. Il manque quelque chose dans notre société d'aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est que tu as été chercher cette structure-là justement au travers des arts martiaux?
Structure, tu veux dire parallèle à une structure sociale ou des études ou une discipline de vie qu'on n'a pas recours à aujourd'hui?
Ben, structure, j'irais probablement dans le... Tu sais ce que j'expliquais tantôt, si je regarde ce que les arts martiaux m'ont apporté, ils m'ont apporté une structure. Puis quand je veux dire structure, c'est vraiment la base de l'être humain que je suis.
Ouais.
J'ai beaucoup de respect pour l'autrui parce que je le sais que je suis en même temps tellement fort, mais je suis tellement faible en même temps. Parce que une chose que les arts martiaux t'apprennent, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un de bien meilleur que toi.
Ouais.
Puis si tu fermes pas ta gueule, il va se faire un plaisir de la fermer.
Ouais.
Puis ça, je l'ai appris à mes dépens.
Ouais.
Puis c'est une leçon à apprendre.
Ouais.
Tu sais, comme Mike Tyson, il dit, un des plus gros problèmes de société aujourd'hui, c'est que on est capable de chialer sans jamais manger un coup de poing sur la gueule pour qu'est-ce qu'on a dit.
Ouais.
À cause des internets.
J'adore pas.
Ah,
c'est tellement mon ami, là.
Des internets.
Internet. Oui, je te dirais que... Ouais. Je feel ta question, là, comme dans mon cœur. Les arts martiaux m'ont appris des valeurs que rien au monde m'a appris. Et avoir... des professeurs incroyables, c'était quasiment aussi puissant que des valeurs familiales directes. Et je ne vais pas dire sinon pas plus, c'est juste différent. Philippe Gélina, Normand Grimard, ce n'est pas mon père, mais ils m'ont appris, et je ne vais pas dire le terme militaire, parce que les arts martiaux, ce n'est pas que c'est militaire. mais il y a un aspect disciplinaire et dans un côté aussi de rigueur, dans un juste milieu, dans une spiritualité qui est allée chercher mon corps. J'ai pas été à l'université, j'ai pas été au cégep, mais pour moi, l'expérience de vie que les arts martiaux m'ont appris, je te dirais que c'est plus grand dans les valeurs humaines. Comment prendre soin de l'autre, comment écouter mon supérieur, mon professeur, oui, elle vient de dire supérieur. Oui, on a de la misère à avoir des titres aujourd'hui, de dire j'ai un boss, j'ai un supérieur, je me suis dans le temps, mes amis filles, bartender, oh pourquoi barmaid, je suis pas bar puis maid, je suis pas une femme de maid. Ça n'a tellement pas rapport. Les titres, les gens aujourd'hui prennent ça tellement personnel. Et comme tu parlais de lineage, je suis tellement fière d'être une petite élève, d'un plus grand élève, d'un maître. Et il n'y a pas de « je me sens rabaissée ». Au contraire, je me sens aussi grande, sachant ma place par rapport à ces maîtres-là. Et c'est ça que ça m'a appris. Et ça, je l'ai envers ma mère, envers toi, envers un individu que je ne connais pas, envers ayant travaillé dans le public depuis 20 ans. Les valeurs que les arts martiaux m'ont appris ont complètement m'ont rendu la bonne personne que je suis aujourd'hui. Je le sais que ça a été des outils qui ont été placés sur mon chemin de vie, que j'ai adoré vivre. Et je te dirais même que je me considère vraiment chanceuse, même si au début, dans le monde d'hommes, il y avait, j'aime pas dire le mot réalisé négatif ou d'obstacle, mais il y avait une intensité à prendre sa place comme femme là-dedans. Mais ça m'a permis d'apprendre à vous connaître. J'ai adoré apprendre à connaître l'homme là-dedans. J'étais comme un inconnu, puis il y en a beaucoup dans le monde des arts martiaux, dans l'enseignement puis l'éducation d'un être humain, puis les valeurs puis la conscience d'un être humain, je crois.
Est-ce que... je sais qu'on a déjà eu cette conversation-là, puis j'aimerais ça que tu en parles un peu pendant qu'on est en avant d'un micro. Le fait que tu dis que tu as appris à nous connaître, puis quand je dis nous, je représente l'homme en ce moment, là. Mm-hmm. Explique un peu ce que tu veux dire par ça. Je sais ce que tu veux dire, mais j'aimerais ça que tu touches au fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que tu as appris à nous connaître?
Je suis tellement contente de vivre ça. On dirait que ça fait tellement longtemps, j'ai envie d'en parler.
Ben, j'ai fait exprès. Je voulais mettre la table pendant une demi-heure pour savoir qu'on vient vraiment, que même si notre lineage n'est pas le même, je voulais faire sûr que le monde comprenne comment petit que le Muay Thai est en Amérique du Nord. C'est mini, ça, tout le monde se connaît.
Les arts martiaux m'ont cassé du moule d'une effervescence naturelle, historique qui s'est faite à travers la force de la femme québécoise, la force de la femme. On doit se tenir, on ne doit pas, on est égal à l'homme, on doit traiter l'homme, l'homme devrait être pareil comme la femme, communiquer, là, là, là. Je vais paraître, mes amis filles seraient, oh my God, I can't believe you're saying this, but I will. On a un rôle, on est très différent. J'ai appris à respecter l'homme et j'ai rencontré des hommes qui ont appris à me respecter dans l'aspect féminin d'une maître arts martiaux que je suis devenue. Et ça laisse place à une compréhension de l'un et l'autre. Ça laisse place à laisser transparaître la différence qu'on est vraiment. Je trouve que la femme d'aujourd'hui, parfois, on n'en a pas assez à quel point que c'est magnifique qu'on soit différent. Moi, ça m'a porté dans le monde d'art martiaux, parce que mes amis filles ne comprennent vraiment pas. Je suis devenue plus féminine à travers ça.
Mm.
On dirait que ça m'a donné un espace. Puis on le disait hier, tout homme a un côté féminin, toute femme a un côté masculin.
C'était ce matin, ça.
Mais on n'est pas un, puis on n'est pas l'autre.
Ben, c'est une affaire qui est quasiment cheap, qui en est tellement utilisée, qui est quasiment rendue cheesy, mais le yin et le yang.
On a parlé de tout ça, j'adore.
C'est un cercle qui est littéralement moitié blanc, moitié noir. Dans la portion blanc, il y a une petite portion noire. Puis dans la portion noire, il y a une petite portion blanche.
Ouais.
Puis ça représente la dualité, que ça soit la dualité dans le corps d'un homme, d'une femme. Mais ça représente surtout... C'est très facile à le voir représenté d'une façon d'homme et femme.
Ouais.
Mettons que normalement, le blanc représente l'homme, la femme est représentée par le noir. Mais ce que je veux dire, c'est que dans notre individualité d'homme-femme, il y a quand même une portion, le petit cercle qui est dans le milieu du blanc,
ouais.
Le petit cercle noir dans le milieu du blanc, puis le
en
petit
harmonie.
Cercle blanc. Mais les deux, j'ai un peu de femme dans moi, t'as un petit peu d'homme dans toi, mais on est complètement l'inverse. Mais le fait qu'on est l'inverse est capable de nous mettre ensemble puis de compléter un petit peu deux moitiés puis d'en faire un plein. Mm. Puis ça, que ça soit homme et femme, que ça soit qu'est-ce que j'appelle the monster, le monstre qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on doit mettre sur chaîne puis le contrôler. Puis les arts martiaux m'ont montré c'était quoi mon monstre. Mais la discipline des arts martiaux m'a montré comment le mettre sur une laisse, le mettre dans sa cage jusqu'à ce qu'il ait besoin de sortir.
Ouais.
Puis ça, je pense, toi, est-ce que en fait de femme, est-ce que tu penses que tu en as un monstre à l'intérieur de toi?
Ouais.
Est-ce que il te fait peur ou tu le contrôles, ton monstre, en toute honnêteté?
C'est intéressant, puis là, et on dirait qu'il y a comme le côté du yoga et de la spiritualité qui convergent ensemble pour moi.
J'ai fait exprès.
I know. Je vais dire que... I'm going to start by saying I am a never-ending student. So I do not master my demons inside. I think that it's beautiful.
Redis-le en français. Audience française.
Ouais, je dirais que... D'avoir l'humilité de dire qu'on n'a pas maîtrisé ces démons ou ces énergies en nous, c'est grandiose. C'est là que pour moi, l'aspect arts martiaux, pendant plusieurs années, j'ai eu l'impression que je pouvais tamiser ça en tout temps, puis que je pouvais contrôler ça. Et la rencontre de la spiritualité et de la méditation me donne une humilité de me dire qu'il y a toujours ça en nous, et c'est beau de le vivre, de respirer dedans, puis d'apprendre à respecter ses limites et respecter le flot vers où ça s'en va là-dedans. En maîtrisant puis en connaissant comment aller dedans puis comment en sortir dedans. Parce que je pense pas que ça peut complètement disparaître.
Ben, ça peut pas disparaître.
Non.
Ça fait, encore là, c'est de la dualité.
Et quand tu dis le mot maîtriser, c'est tellement grandiose pour moi. Je pense qu'il y a des gens à la fin de leur vie et de l'autre vie qui ont toujours pas maîtrisé certaines affaires. Ça dépend, je pense que ça dépend vraiment de chacun.
Oh, mais c'est un parcours. C'est un parcours qui, la distance est pas prédéfinie. Le but est établi, c'est de contrôler tes mauvaises actions. Ouais, je sais pas si je dirais des mauvaises actions, genre formuler ça, j'aime pas de la façon que ça a sorti. Je crois très fortement que, puis première référence à Dr. Peterson aujourd'hui, parce que j'en fais une au moins par podcast. Lui, il l'explique très bien en disant que on est capable de causer des atrocités extraordinaires comme on est capable de causer les plus belles beautés de ce monde. Mais que sans connaître les atrocités que tu es capable de commettre en fait d'individu, tu n'as aucune façon d'être capable de commettre les plus beaux gestes que tu vas connaître.
Et c'est là que j'adore ce que tu dis parce que...
Oh, je ne l'ai pas dit, je le répète en français, c'est tout du Peterson.
À un moment donné, c'est ça qui est arrivé chez moi, c'était comme la loi de la gratitude infinie en tout temps. Quand j'avais un knockout, j'avais de la gratitude. Quand j'avais perdu mon combat, j'arrivais à avoir de l'humilité là-dedans. Quand j'avais le démon qui sortait après 30 rounds sur le punching bag, puis que quand j'enlevais mes gants, j'étais comme « t'es plus capable », j'aimais ce que je rencontrais parce que ça l'amenait une énergie qui devenait automatiquement tamisée puis en harmonie. Fait que tous les fois que ça surmonte ou ça remonte, il y a quelque chose de vraiment beau éventuellement que tu arrives pas à maîtriser, à vivre avec dans une douceur totale pour moi.
Très bien dit.
Ça veut pas dire que j'arriverai dans un combat aujourd'hui puis c'est comme ça fait ding ding puis c'est ma technique avec la tienne puis let's do the best we can as human and martial artist.
Ouais.
Je veux dire que à la fin là puis avant quand je médite là ou à un moment donné dans mon entraînement dans Marceau, il est arrivé où est-ce que puis je l'ai entraîné quand je coachais les gars au début me trouvaient complètement folle. J'étais comme tu dois avoir de l'amour pour ton opponent. Tu le visualises pas avec de la haine. Tu sais, j'ai retourné des gens des fois chez eux les gars de 175 me disaient de quoi tu parles? Oui, tu retournes chez vous puis tu quand tu arrives à amener ça dans l'aspect martial et de combat, il y a quand même quelque chose d'assez exceptionnel qui converge ensemble.
Ben, je pense que je dis tout le temps ça en anglais. Il va falloir que je trouve une traduction pour le français qui sonne, qui va faire justice en anglais. Mais je dis tout le temps que life is fighting, fighting is life. Fait que se battre est la vie, puis la vie est se battre. Ça sonne pas pur. Mais toutes les choses, comme tu viens de mentionner, d'avoir du respect pour même si je vais aller dans un ring avec quelqu'un qui veut littéralement me casser la gueule, on dit en bon québécois, là, j'ai du respect pour cette personne-là parce que il doit avoir le courage de venir m'affronter parce que ma job, c'est de lui faire mal, sa job, c'est de me faire mal. Mais il y a un respect. J'ai pris des verres avec des gars que j'ai battus.
Ouais.
J'ai pris des verres avec des gars qui m'ont battu.
Ouais.
Puis c'est pas grave, là. Je peux être avoir la main cassée avant d'aller à l'hôpital, me prendre une photo avec le gars avec lequel je viens de me battre avec un gros sourire d'en face. Il n'y a pas d'animosité du tout.
Ouais.
Mais
les gens pensent toujours, puis ils ont souvent dit, ah, tu dois tellement être violente parce que tu fais du Muay Thai.
Au contraire, c'est tout à fait
moi,
le contraire.
Moi, je suis comme genre, va habiter là-bas, va étudier tous les rois qui sont en parallèle avec les rois indiens
ouais.
comme Hanuman, les démons protecteurs, les ramouailles, les fleurs que tu offres à ton combattant avant, puis
ouais.
en harmonie, puis en respect de ta ligne familiale, ta ligne de professeur.
Mm-hmm.
Ouais, comme tu disais tout à l'heure, allez lire un peu là-dessus avant de dire que c'est quelque chose qui est atrocement violent à cause des coups de coude puis tout ça. Il y a quelque chose, encore une fois, je trouve que comme tu l'as si bien dit, il y a un yin puis un yang dans le Muay Thai que j'ai, quand j'habitais là-bas, que j'ai adoré. Il y a une intensité dans l'art martial parce que les armes sont autant de proximité que de longue distance.
Uh-huh.
Clinch, les coups de coude, c'est assez intense, merci.
Absolument dévastateur.
Oh my God, absolument
ma partie préférée du Muay Thai.
Mais la culture, les fleurs, le bouddhisme que j'ai eu la chance de goûter quand j'habitais là-bas,
ouais.
à m'entraîner à Chiang Mai, dans les montagnes, avec des moines, avec les fleurs, il y a quelque chose qui est complètement différent. Que c'est ça l'art martial. C'est ça embarquer sur un ring. C'est pas une question de se battre. Tu te bats, je ne sais même pas que c'est le terme de se battre. Il y a comme quelque chose qui se crée entre deux personnes qui donnent le mieux de qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce moment-là. Tu sais, c'est quoi? Tu l'as vécu, le cheminement du combattant. T'sais.
Il faut le vivre pour le savoir. Je suis tellement content. Je l'ai fait trop tard. Je ne l'ai pas fait aussi longtemps que j'aurais aimé. Mais je voulais juste... Je l'ai fait pour moi. Je m'en foutais des résultats, c'est sûr que tu veux gagner. Mais j'avais une couple de combats amateurs. J'avais, je pense, 3-4 combats amateurs. Je me suis pas battu pendant une couple d'années parce qu'il a fallu que je fasse une opération sur mon genou puis sur ma cheville. Le premier combat que je suis revenu, j'étais allé aux États-Unis me battre en avant plein de monde que je connaissais pas. On a fait 15 heures de route pour se rendre là-bas. Je me suis fait knocker fret dans le premier round. Je dominais ben raide. J'ai fait une gaffe. Droite, direct sur le menton. Puis je me rappelle être dans change room, dans change, dans salle en arrière. Puis mon coach, crew, Gerald Chin de Mississauga, il est en train de défaire mes mains. Il est en train d'enlever le tape de sur mes mains. Je ne me rappelle pas de sortir du ring. Je me rappelle pas. Puis j'étais pas knock. Tu sais, je dis knock et fret. J'ai fait la poule, là. Et j'ai puis je me suis fait sortir, disons que je marchais pas par moi-même. Mais j'ai pas eu peur de me rebattre après.
Ouais.
Puis je pense que c'est une des choses, tu sais, la référence que je vais faire, c'est la plupart des gens ont l'impression, pour une raison ou pour une autre, que le succès est une ligne diagonale au travers du temps qui passe. Tu sais, tu regardes un graph. Le monde pense que ça commence au jour zéro, que par 10 ans, t'es rendu à ton but, t'as eu le succès que tu voulais avoir, mais que c'est une ligne qui est droite au travers du temps, qu'il n'y a pas d'obstacle, que c'est juste... Il faut juste mettre du temps, puis ça va arriver. Ben non, au contraire. Tu sais, il y a un de mes amis qui aime ça dire que le iron forges iron, or sharpen irons, fait que le métal aiguise le métal. Mais sans échec, comment est-ce que tu es supposé de devenir plus aiguisé? Comment, sans justement perdre dans la vie, comment est-ce que tu es supposé de savoir de quoi tu es fait? Puis de prendre une décision mentale, de dire je vais devenir plus tough, je vais recommencer à le faire parce que c'est ce que je veux faire. Ou tu n'as pas le choix. Tu peux
Ou
pas.
Tu n'as pas le choix.
Ouais, je pense que pas ce que tu veux faire. Il n'y a pas personne qui veut. Comment c'est quoi, failures en français?
Vivre un échec.
Oui, exact. Il n'y a pas personne qui veut vraiment vivre des échecs, mais des échecs, c'est inévitable. Il n'y a rien que tu peux faire, que ça soit en combat ou que ça soit dans la vie. C'est pour ça que je dis tout le temps que le combat, c'est la vie, puis la vie, c'est le combat. J'aimerais ça d'une perspective féminine. Quand tu regardes, vu que tu as eu la chance de t'entraîner en Thaïlande, vu que tu as eu la chance de t'entraîner avec des gars qui étaient ce qu'on considère des vrais hommes, là. C'est des hommes qui sont en contrôle de leurs moyens, si je peux dire ça comme ça. Normalement, très spirituel, puis il y a une grosse connexion au travers du spiritualisme, puis les arts martiaux qui est malheureusement, comme dans notre société, complètement perdu. on nous dit quoi faire, mais on ne nous explique pas la philosophie en arrière du pourquoi. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose qui est manquant, que ça soit en arts martiaux aujourd'hui parce, ou que ça soit dans notre société, parce que les deux, c'est les mêmes, là? Est-ce que tu penses que ça manque la connexion entre le spiritualisme, la philosophie de vie, puis la façon qu'on vit?
Tu me connais, puis tu sais tellement.
Ah, je suis pas épais. Oh
oui,
je suis pas épais,
là.
Je sais.
Vous le voyez peut-être pas, j'ai des grosses larmes de crocodile. Je l'ai vu transparaître dans le domaine des arts martiaux.
Ouais.
Cette déconnexion je veux dire le terme nowness. Quand je dis nowness, c'est le moment présent, c'est la conscience, c'est l'harmonie de la spiritualité, de l'aspect warrior en nous. Les gens pensent que être warrior, c'est la science infuse, c'est il n'y a pas de titre, c'est tout le monde est égal, c'est... Non, mais tu sais, moi, c'est ça, c'est comme...
Ça, ça va te faire surprendre,
ouais, c'est
là que tu vas regarder le plafond, tu vas te demander ce qui s'est passé.
Ça manque dans tous les niveaux. Ça manque dans le domaine du service à la clientèle, peu importe le produit que tu représentes, que ce soit les écoles de yoga, les restaurants, que ce soit les écoles d'arts martiaux, que ce soit dans les relations humaines, sociales, familiales. On s'est vraiment déconnecté à un moment donné à... une spiritualité, puis en fait, je vais aller plus loin que ça, écouter son cœur, puis souvent les gens, oh my God, you're so cheesy, ouais, je vais continuer à en parler, puis le jour je vais faire mon premier TED Talk, c'est de ce dont je veux parler. Quand on déconnecte du cœur, c'est sûr que l'harmonie, d'être humble, d'être équilibré, d'être dans la conscience, d'avoir ces valeurs d'écoute, de communication, ils peuvent pas coexister ensemble. On tombe dans l'ego, on tombe dans le mental, on tombe dans la peur. Combien d'êtres humains vont vivre leur vie en disant le mot peur, j'ose pas. Ça, justement, à travers les arts martiaux, c'est quelque chose qu'on m'a appris à ne plus dire. Je suis pas capable, là. Mon prof d'arts martiaux, il me faisait faire 100 push-ups toutes les fois que je disais ce mot-là, jusqu'à temps que ça faisait plus partie de mon vocabulaire. Mais je trouve que, là, je fais un parallèle, mais à un moment donné, ces mots-là, cette façon de vivre-là qui est déconnectée, ça manque dans tous les volets de vie, je trouve.
Ben, c'est ça que je trouve un petit peu impressionnant des arts martiaux, d'un coup que je me bats plus, puis que je suis capable en vieillissant, puis en lisant sur la psychologie, tu réalises que c'est comme un échelon manquant. On aurait dit que c'est comme la connexion de tout, que ça soit en arts martiaux ou que ça soit une société, on aurait dit que tu sais, t'as les trois piliers d'un individu qui sont le corps, son esprit, puis le mental. Le mental puis l'esprit, c'est pas la même chose, puis le corps, c'est pas la même chose, mais les trois parlent, mais sans la spiritualité pour connecter ton mental avec ton corps.
Exactement.
C'est littéralement, imagine une maison qui a trois piliers, mais t'enlèves pas le pilier du milieu, t'enlèves un des piliers de côté. Fait que ça va pencher puis ça va être tout croche. Il y a quelque chose qui manque. C'est comme peut-être que la spiritualité est la colle entre le corps et le mental.
Est-ce qu'on pourrait utiliser un autre terme de spiritualité, autre que le terme spiritualité, pour connecter ce mot-là aux gens peut-être qui connaissent moins le terme spiritualité? Même conscience, si on enlèverait le terme conscience puis spiritualité, Nico, tu penses-tu qu'on pourrait dire un autre terme de mot pour...
À la place de spiritualité? Ben, je sais pas, je pense pas que... Personnellement, je vois pas de problème avec la spiritualité, j'ai juste l'impression que le monde a une mauvaise connotation. Je sais pas pourquoi, mais les gens ont tendance à penser que... oui... Je sais pas si vous entendez ma chienne, mais elle aime ça parler. C'est un berger allemand, là, fait qu'elle nous parle.
Elle s'exprime.
Ouais, elle est en train de nous dire que spiritualité, c'est un mot écœurant.
Exactement.
Je suis d'accord. Merci.
Non, mais je te le pose parce que souvent, les gens vont me dire ça dans mes ateliers de yoga, whatever. Peux-tu utiliser un autre terme que spiritualité?
Mais pourtant, mais c'est le terme.
Je le sais.
C'est juste que ce que j'allais dire avant que je me fasse interrompre par une de mes chiennes, c'est de... Le monde a une mauvaise connotation, j'ai l'impression, qui relie spiritualité à religion. Oui, ça peut être vrai, t'as beaucoup de spiritualité dans la religion, mais je ne suis pas quelqu'un de religieux. Mais je suis extrêmement spirituel.
Absolument.
Puis quand je dis que je suis pas religieux, c'est que je crois pas dans des livres qui ont été écrits par des hommes. Je pense pas que pour moi, d'avoir une connexion avec un dieu, ou peu importe ce que moi je considère d'être plus grand que moi, j'ai besoin d'une religion pour me dire comment interagir avec cette personne-là, malgré que je crois dans la moralité qui est les 10 commandements, par exemple, dans la Bible. Oublie le fait que c'est Moïse qui l'aurait donné par la voie directe de Dieu. Lis les 10 commandements, puis si tu comprends notre système judiciaire, nos lois sont judéo-chrétiennes puis sont basées sur les 10 commandements.
Mm.
Dis les 10 commandements, puis dis-moi que ça te ferait pas une meilleure personne si tu les suivais à la lettre. Est-ce que ça fait de moi un religieux? Non. Mais est-ce que je crois très fortement que je suis spirituel puis que ça, c'est la connexion manquante? Oui. Mais je ne sais pas qu'il y a un autre mot. C'est le mot pour
c'est
l'expliquer.
C'est le mot, moi aussi, je pense.
Je vois pas. Puis ça me fait mal au cœur de penser que le monde voit ça comme une mauvaise chose quand que la spiritualité, c'est tout. J'habite dans le bois, puis en ce moment, je regarde en arrière de toi. On est en haut d'une falaise. Je suis capable de regarder dans une vallée où c'est juste du bois. Je peux voir. Souvent, je peux regarder. Je vais voir des animaux partout. Puis je sens la connexion que j'ai avec la nature. Ça fait partie de ma spiritualité. Je le sais que je ne suis qu'une infime partie de cette nature-là. Même chose quand je regarde le ciel le soir, je sors sur mon balcon en avant, puis j'ai accès aux étoiles directement parce qu'il n'y a aucune pollution de lumière. C'est bien dur de ne pas être spirituel en te levant la tête, en voyant des étoiles filantes, en voyant toutes les galaxies que tu peux voir, en voyant la Voie lactée, en voyant les planètes qui sont juste là puis qui te regardent, de pas penser qu'il y a quelque chose qui nous interconnecte tout ensemble, puis ça, c'est pour moi ce qui est la spiritualité. L'interconnexion que tous les êtres vivants, que ce soit sur cette planète ou sur les milliards d'autres planètes qu'il y a sûrement d'autres êtres, la seule connexion qu'on a entre tous nous, c'est la spiritualité. God damn!
I love it! This is amazing!
Je ne l'ai jamais expliqué de même, mais j'adore. Ça fait du sens.
Non, mais c'est un bel échange. J'adore.
Ça fait déjà une heure qu'on parle. Ça passe vite. Ça va être le premier de plusieurs. T'inquiète.
J'adore.
J'aimerais ça t'avoir avec Damien. J'aimerais ça, je vais te le présenter. Tu le connais pas, mais t'en as entendu parler. Tu l'as vu dans d'autres podcasts.
J'ai
là.
Vu aussi, oui, absolument.
Puis c'en est un qui est encore extrêmement spirituel, très stoïque. Il est la définition de stoïque. Et très spirituel, mais pas religieux. Mais il a lu la Bible, il a lu le Coran. Il lit tous ces livres-là parce qu'il voit il voit une importance à comprendre les Écritures.
Mm.
Qu'il soit en accord ou pas avec ça, ça n'a pas d'importance. Mais vu que ça fait une heure, puis je sais qu'on a un certain itinéraire à respecter, je veux te poser la question que je pose à tout le monde à la fin de mes podcasts. Puis si tu m'as déjà entendu, tu le sais exactement, je m'en vais avec ça. Si tu avais la chance de parler à ton toi avec un E, quand tu avais 14 ans, connaissant ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à cette fille-là?
Continue à faire exactement ce que tu fais, ma belle.
C'est pas plus compliqué que ça, hein?
Non. J'étais dans une splendeur de joie de vivre, une gratitude à 14 ans. J'étais exactement où est-ce que je voulais être. Et tout est parfait.
C'est quoi? On arrête ça là. Tout est parfait. Bonne journée tout le monde.
Bye Nicole.